France Culture.
Elle a l'origine de la vie comme source de réflexion constante et le devenir de la planète Terre comme préoccupation majeure. De Mars à la Terre, l'astrobiologiste Nathalie Cabrol a choisi de prendre la plume pour nous interpeller et nous mettre face à nos responsabilités si nous ne voulons pas voir l'humanité disparaître plus vite que prévu. Un appel à se métamorphoser, à redevenir humain, à préserver la biosphère et son équilibre, car comme elle le dit, nous sommes les héritiers et les gardiens d'un monde vivant où l'environnement et la vie sont intimement liés. Rencontre avec vous, Nathalie Cabrol. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir. Vous êtes franco-américaine, spécialisée en planétologie, directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI en Californie, auteure d'un essai intitulé « Inséparables, les destins croisés de la Terre et de la vie » paru aux éditions Julliard. Et ensemble, eh bien, nous allons au-delà de votre parcours. Nous allons regarder la Terre comme notre destination première et la nature comme l'équilibre essentiel à la vie, au nom de la Terre et de notre devenir. Bienvenue à vous et bienvenue à tous nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat toujours avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar, avec la collaboration de Lily Cornaer, celle de Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France que nous saluons. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Grégory Wallon.
C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend, tiré sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran.
La sortie du LEM, c'est le début de l'échelle.
Il descend dans l'embase du LEM.
Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe. Pour eux, le plus important, c'est de conserver leur stabilité.
Jacques Salbert, maintenant, nous écoutons Armstrong.
Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong.
Voici le premier pas.
Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Je ne peux pas voir l'empreinte de mon pied sur le sol. Le sol qu'il compare d'ailleurs à une poussière de charbon.
Et il marche maintenant.
Extrait d'un reportage diffusé sur la radio-télévision française de l'époque, c'était le 21 juillet 1969. Armstrong et Aldrin qui posent les pieds sur la Lune. De ce moment, Nathalie Cabrol, naît votre passion pour l'espace. Vous aviez 6 ans.
Pas tout à fait 6 ans. J'étais déjà fascinée par le ciel. Mais certainement, ça a cristallisé cette passion. Ce qui est formidable dans ce témoignage, je me rappelle de chaque image pratiquement, mais ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que le LEM était posé sur la Lune. Et cette hésitation de Armstrong avant de sauter, c'est parce qu'il avait quelque part aussi peur de s'enfoncer alors que le LEM était lui posé. Donc il y avait toute cette découverte et puis on peut simplement imaginer l'émotion qu'il avait en lui à ce moment-là. J'ai vraiment encore toutes les images un petit peu fantomatiques de la télé en noir et blanc à la maison à 3h du matin.
Et du coup, vous dites à vos parents, c'est ce que je veux faire.
C'est ce que je dis à ma mère, parce qu'on est toutes les deux. Mon père travaillait à l'époque, la nuit. Et oui, je suis sur les genoux de ma mère, elle m'avait tenue réveillée, donc j'avais un peu plus de 5 ans à ce moment-là. Mais elle connaissait déjà ma passion pour tout ce qui touchait à l'espace. Et on a regardé ça ensemble.
Une mère technicienne en radiologie qui vous a éveillé par aussi une curiosité à travers les lectures. Votre père ingénieur informaticien, c'est dans cet univers-là que vous grandissez.
Oui.
Avec cette passion pour le ciel, l'exploration et puis le rêve d'être astronome, mais vous n'êtes pas douée en maths et en physique.
Les maths et la physique, pendant mon adolescence, on n'était pas vraiment très très bons amis. Et puis ça a changé, c'est venu beaucoup plus tard. Mais entre-temps, il a fallu réconcilier la passion avec le cursus formel de l'enseignement. Et ça n'a pas été tout seul. Mais aujourd'hui, avec le recul, alors évidemment, on peut voir ça dans les deux sens. Je réussis à faire ce que je fais à cause de toutes ces tergiversations et mes errances sur mon chemin scolaire, et voir ça comme des intersections. Aujourd'hui, je préfère regarder à ce cheminement comme quand on dit aux gens, ce sont pas forcément des portes qui se ferment devant vous, ce sont des panneaux indicateurs pour vous indiquer la bonne direction. Donc c'est là où on peut lire ça de manière différente. Je suis dans cette direction parce que certaines portes étaient fermées, ou peut-être c'est là où je devais aller.
Et peut-être que ces portes-là, elles étaient fermées, mais vous aviez aussi une personnalité autre. Vous dites de vous-même que vous devez être Asperger. En tout cas, vous en avez fait la recherche, peut-être. Hein.
Alors, c'était assez amusant parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon enfance, particulièrement la recherche de schémas, les choses, connecter les choses, lire de droite à gauche, écrire de droite à gauche, lire les plaques d'immatriculation, multiplier les nombres. En fait, m'intéresser à des tas de choses qui n'intéressent personne, très peu social. Mais dans les faits, il y a beaucoup de chercheurs qui sont comme ça. Et ce sont des traits de personnalité, en fait. Quand on arrive à dépasser le problème social ou d'interaction avec les autres, ce qui a été un problème pour moi à l'école et en particulier avec mes pères à l'école, c'est très utile. Parce que c'est un détail amusant, mais il m'arrive de lire des colonnes de chiffres qui défilent devant mon écran, mais je suis capable d'attraper celui qui m'est nécessaire. Donc pour moi, c'est très très utile. Mais j'ai découvert cette chose-là. Je me disais bien que j'étais un petit peu étrange, et tout le monde me le disait d'ailleurs. Mais un collègue m'a dit « mais tu devrais passer ce test ». Parce que ce que tu me décris, c'est des choses qui me sont familières. Et lui avait passé le test. Et donc, il y a ce fameux test qui dit que la moyenne de la population est autour de 15. Ça n'a aucune importance ce que ça veut dire. Les problèmes avec le véritable autisme commencent à partir de 32, 33. Et quand j'ai pris ce test, j'étais autour de 26. Mais aujourd'hui, ça ne me dérange plus. En fait, les choses sur lesquelles j'ai travaillé, de par mon métier, je suis obligée de parler, ce que je n'aimais pas avant, donc je fais des conférences. Et puis, surtout, il faut que je gagne ma vie, donc il faut aussi que je représente tout ça. Et je me suis dit, dans le fond, j'ai dû faire beaucoup de progrès dans ce domaine-là, puisque ça ne me gêne plus, je suis capable de m'adapter. J'ai refait le test il y a quelques années, il y a 2 ans, et maintenant je suis à 29. J'ai dit, j'ai appris à masquer mieux avec l'âge. Mais ça ne me dérange plus.
Non, mais en tout cas, on sent que ça a dû vous perturber dans cette adolescence compliquée, du coup, en se sentant étrange ou étrangère. La vie n'a tenu presque qu'un fil pour vous, à l'âge de 14 ans d'ailleurs.
C'est difficile parce que les enfants, les adolescents, c'est un petit peu comme un groupe dans la nature, et dès qu'il y a quelque chose qui est différent, ils le sentent. Et donc, immédiatement, j'ai eu beaucoup à faire face à beaucoup de remarques, et un petit peu de bullying aussi, comme on dit chez moi. Et ça a été très, très difficile. Et en plus, le fait que je ne voyais pas comment je pouvais arriver à devenir astronome à l'époque, n'étant pas bonne en maths et en physique, alors que j'étais bonne partout. Et c'est devenu une situation qui m'a désespérée un petit peu, mais ça aussi était la plus belle leçon de ma vie que je garde encore aujourd'hui, c'est de dire qu'on ne peut pas prévoir le futur avec le présent. Et qu'en fait, on crée le futur chaque jour de notre vie en avançant. Et ça, j'en ai pris conscience à ce moment-là. C'est ce qui me permet de dire aux gens aujourd'hui, et à tous les âges, mais en particulier les jeunes gens, parce que c'est une époque difficile dans la vie. On n'est pas vraiment maître complètement de son destin avec les cursus formels, etc. Les adultes décident pour vous. Je leur dis, écoutez, il faut simplement, la chose la plus importante, c'est de croire en vous-même, de croire à cette petite flamme qui est en vous. Parce que quand les gens vous disent, vous êtes rêveur, ça n'arrivera jamais, etc. Si ça n'existe pas, inventez-le.
Et toujours se raccrocher à cet espoir ultime, puisque c'est dans cette adolescence, vous le savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont ce geste ultime en tête. Vous l'avez eu à l'âge de 14 ans. 3 ans plus tard, alors vous êtes sauvé d'une noyade par un nageur qui lui meurt dans vos bras. Vous dites là, j'ai un ange gardien. Et la vie, plus que tout, il faut s'accrocher.
C'était une belle leçon. C'est... Oui, à cette époque-là, j'avais fait le tour dans ma tête. En fait, je l'ai fait immédiatement. Dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai eu cette chance. Il y a beaucoup d'adolescents qui ne l'ont pas. Mais moi, ça a été une leçon de vie, littéralement, qui me pousse toujours aujourd'hui à littéralement grimper les montagnes, puisque c'est ce que je fais aussi. Mais la personne qui s'est noyée dans mes bras, c'était une personne qui était en train de se noyer que j'ai été chercher. Et donc, une autre personne qui est venue parce que je n'arrivais pas à la ramener sur la plage. Il y avait eu de la tempête et beaucoup de courant. Donc, ça m'a donné une autre vision en disant, c'était un rappel, une espèce de karma qui revenait 3 ans plus tard en disant, tu vois, celui-là, il avait des rêves, il avait peut-être quelque chose, mais pour lui, c'est terminé. Donc, c'était littéralement avoir la visualisation, la matérialisation de quelque chose dans mes bras. C'était une leçon que je porte aujourd'hui en moi, et certainement celle-là, j'ai comprise.
Alors, forte de vos rêves, de vos passions, de vos envies, vous allez vous retrouver épaulée par des mentors qui vont vous guider, ouvrir des voies non envisagées à la base. Et je vous propose d'écouter la voix de ce professeur, et vous me direz si effectivement vous reconnaissez qui il est.
Il y a comme une espèce, spéciale à la géographie, je ne sais pas, comme une espèce de décalage entre les travaux des géographes et ce qu'imaginent les gens, ce qu'imagine le public. On dit que la muraille de Chine est le seul objet visible, construit par les hommes, pardon, visible de la Terre, vu dans sa totalité quand vous voyez la Terre, par exemple, de la Lune. Et qui dit ça? Ce sont les astronautes qui disent ça. Mais ils se trompent. Il y a des objets construits par l'homme qui sont parfaitement visibles sur la Terre vue dans son ensemble. Le Nil, le Tigre, l'Euphrate, le Colorado sont marqués par des bandes sombres sur l'image totale de la Terre. Mais ce ne sont pas les fleuves qu'on voit. C'est le ruban des cultures irriguées, c'est-à-dire une œuvre humaine. Alors, les astronautes ont su voir, ils n'ont pas su décoder. Peut-être faute de culture géographique.
Alors, Nathalie Camerol.
Oui, il a transformé ma vie, Jean-Pierre Alix.
Eh oui, c'était lui sur France Culture le 15 juillet 1996 dans l'émission Agora. Et ce fut votre professeur de géographie en Hippocagne.
Oui, et lui a véritablement transformé ma vie parce que, donc, pas bonne en maths et en physique, c'était difficile pour moi de m'orienter avec le système éducatif vers l'astronomie, puisque la planétologie à l'époque n'existait pas en France, et comment elle débutait à peine dans un pays très très lointain, dont j'avais pas la moindre idée qu'il m'accueillerait un jour. Et comme j'avais un an d'avance, j'avais déjà un bac, j'ai fait une double mention, parce que c'est l'histoire de ma vie, j'ai eu mon bac littéraire grâce aux maths et j'ai raté le bac mathématiques à cause de la philo. Mais ça c'est l'histoire de ma vie, c'était l'errance de cette époque-là. Mais par contre, j'ai dit, j'ai pas envie de faire l'ENS, j'ai pas envie de faire les grandes écoles, mais par contre une prépa ce serait bien, parce que ça me donnerait une méthode de travail. Alors là, j'ai eu exactement ce que je désirais, parce que c'était assez brutal. Mais aujourd'hui encore, je peux dire merci, parce que je suis capable de mener de front pratiquement, je pourrais dire, 3 ou 4 carrières, ou en tout cas la charge de 3 ou 4 carrières en même temps, sans que ça me perturbe véritablement. Et dans ce groupe de professeurs aussi, j'ai découvert un bel aspect de l'éducation, c'est-à-dire que sorti de l'enseignement secondaire, et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de professeurs passionnés dans le secondaire, absolument pas. Pour moi, ce sont des saints, d'abord parce que les adolescents qui sont dans le secondaire, ce n'est pas la meilleure partie de la population avec laquelle on a envie, généralement, de pouvoir partager des choses. C'est très difficile, donc ils ont tout mon respect. Mais en même temps, c'est une éducation scolaire par essence. Il y a une base de connaissances à apprendre. Mais c'est pas nécessairement la plus intéressante, c'est quelque chose de parfaitement formel, de parfaitement, vous devez faire cette partie-là du programme et cette partie-là du programme et pas essayer trop de comprendre. En fait, l'éducation à l'heure actuelle, elle nous apprend à retenir, elle nous apprend pas à penser. Et ça, c'est tout le problème. Et là, ça allait s'inverser avec l'Hippocagne.
Eh oui.
Parce que d'un seul coup, on était un tout petit groupe d'étudiants. D'abord, il faut vraiment vouloir le faire pour y aller. Et puis ensuite, on a des professeurs complètement passionnés. Et pour moi, ça a été une découverte. J'aimais déjà beaucoup l'enseignement, quoi qu'il en soit. Mais là, j'ai découvert des personnes, que ce soit le prof de latin, de philo, etc. Ils avaient tous un petit quelque chose. La prof de latin, j'ai compris pourquoi j'avais fait 5 ans de latin et des déclinaisons. D'un seul coup, on parlait de la guerre des Gaules dans le texte, etc. C'était absolument fabuleux. Elle était tellement bien que j'ai commencé le grec avec elle aussi.
Et puis d'autres, sur votre route, le professeur de l'université de Nanterre, Gérard Soutadé. Alors, un hydrogéologue qui va devenir votre mari, Edmond Grain, de 44 ans, votre aîné, le géologue. André Cailleux de l'Observatoire de Meudon, vous avez comme ça sur votre route des personnes qui comprennent en fait qui vous êtes.
Et ce que je crois, c'est que donc Jean-Pierre Alix a été celui qui m'a fait découvrir véritablement qu'on pouvait s'intéresser à la formation d'une planète, etc. Mais là, ça a réveillé mon côté naturaliste. J'étais naturaliste naturellement, si je peux dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Et ça, c'est devenu facile. J'avais toujours les meilleures notes en Hippocagne dans son cours. Lui pensait que j'allais faire l'ENS, j'avais 14 de moyenne, il me demandait de préparer les cours, c'était absolument naturel, mais j'avais pas envie. Donc j'ai fait l'équivalence de ma première année avec lui, puis ensuite je suis partie. Mais c'est là où je dis que si vous croyez en vous, je crois fortement que l'univers amène sur votre chemin les personnes qui vont vous aider, vous aiguiller. Et les personnes que vous nommez, Gérard Soutadé, c'est absolument fabuleux. Lui m'a fait voir, j'étais dans un groupe absolument fabuleux à Nanterre, qui était le groupe de l'environnement, du laboratoire ELAI.
Et d'ailleurs, vous deviez faire une maîtrise sur les risques et l'environnement dans les Pyrénées, un vaste sujet d'actualité aujourd'hui.
Absolument, parce que on travaillait, ce qui était pour moi superbe, c'était appliquer avec le ministère de l'Environnement. On allait sur place voir les risques naturels, etc. Et moi, ça me paraissait formidable. J'aurais été très heureuse, je suppose, à faire ces choses-là. On parlait d'une planète et d'une manière dont une planète change. Et puis, bah, évidemment, une semaine avant de signer mon projet de maîtrise avec Gérard, d'un seul coup, il a eu la bonne idée de me dire bah, « Je connais ce géologue, il s'appelle Gérard de Cailleux. » C'est un ami, un collègue.
André Cailleux.
André de Cailleux. Il est à l'Observatoire Meudon. Il venait de la Sorbonne, en fait, mais il était à la retraite et continuait ses travaux à l'Observatoire de Meudon. Et il m'a dit, si tu veux, il fait quelque chose que je crois s'appelle la planétologie. C'est quelque chose qui pourrait t'être intéressé, parce que, bien évidemment, je ne cassais pas assez les pieds à tout le monde avec mes magazines d'astronomie. Tout le monde savait que je m'intéressais à l'astronomie. Et donc, Gérard m'a envoyé rendre visite à André Cailleux. Ça, c'était 3 jours avant de signer le projet de mémoire de maîtrise avec lui. Et je suis redescendue 9 ans plus tard, quand je suis partie aux États-Unis avec une maîtrise et un doctorat en géologie planétaire.
Et direction la NASA.
Parce que le laboratoire fermé en France. Les gens me disent, mais pourquoi t'es partie aux États-Unis? Pourquoi t'as pas fait ça ici? J'aurais pas pu le faire. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de facilité. Pas pour les postes, hein, c'est toujours une catastrophe. J'ai parlé à beaucoup de jeunes gens qui sont ici en France, il y a toujours très peu de postes. À cette époque-là, c'était encore plus difficile parce qu'on avait une discipline qui était naissante. Et puis quand je suis partie, moi, aux États-Unis, c'était avec une bourse de 9 mois et une valise. Et celui qui allait devenir mon mari me tenant la main. Et puis, ben, maintenant, ça fait 30 ans que je vis aux États-Unis.
Oui. Et vous êtes devenue vraiment une experte sur ces questions de recherche de la vie sur Mars, notamment. Expliquez-nous peut-être vos domaines d'expertise, mais c'est vraiment plutôt la quête de compréhension de la vie et chercher peut-être des marqueurs sur notre propre planète pour mieux les dénicher ailleurs.
Oui, Mars, je dirais que ça a été le début de ma carrière et c'est de cette manière-là que je me suis entraînée, que j'ai appris mon métier. Aujourd'hui, Mars continue de m'intéresser, mais c'est pas le centre essentiel de mes recherches. Ce qu'on fait, en fait, c'est que, bon, bah pour Mars, on a essayé de comprendre si, parce que Mars est la planète qui ressemble le plus au niveau de l'environnement et qui était la plus proche au moment où elle s'est formée de l'environnement terrestre, c'est important pour nous de comprendre et de savoir si elle était habitable. Et il y a plein d'autres raisons pour lesquelles aussi elle est importante, parce que c'est peut-être là qu'on comprendra un jour comment la chimie prébiotique, c'est-à-dire avant le vivant, a transitionné à la biologie, parce que sur Terre, toutes ces archives ont disparu à cause de l'érosion, de la tectonique des plaques, etc. Mais donc, l'aventure martienne, pour moi, c'était véritablement essayer de comprendre si Mars était habitable. Déjà, j'étais toujours intriguée par la présence de chenaux sur Mars. Tout le monde parlait de l'évolution de l'eau sur Mars, parlait des grands chenaux, etc. Mais personne ne s'intéressait au fait que l'eau avait pu stagner quelque part. Et donc, avec mon mari, on a développé donc cette branche des études sur Mars, développé l'histoire de lacs possibles sur Mars, qui a entraîné pour nous, évidemment, la recherche et l'étude du cratère Gusev, et donc qui est devenu avec le temps le site d'atterrissage de la mission de Spirit, qui était le premier rover martien, véritablement le premier gros rover, parce que Pathfinder, qui était un tout petit rover de la taille d'une boîte à chaussures, était là pour une démonstration technologique. Mais Spirit était vraiment le premier rover à explorer Mars et essayer de comprendre si la planète avait été habitable un jour ou l'autre. Donc j'ai fait ça, mais mes questions était déjà ailleurs. C'est-à-dire que pendant que Spirit explorait Mars, on a démontré assez facilement que Spirit et Opportunité, les deux sites à Meridiani et à Gusev, étaient habitables par le passé. Je me suis dit, mais si Mars était habitable par le passé, quels pourraient être les habitats anciens sur Mars et aussi la vie qui pourrait subsister dans ces environnements? Quelle pourrait être sa signature ou ses signatures? Et c'est ce qui a un petit peu entraîné le restant de l'aventure. C'est là où j'ai commencé à explorer des environnements qu'on appelle analogues, c'est-à-dire des environnements qui ressemblent à ce que Mars était il y a 3 milliards et demi d'années. Les analogues terrestres, bien entendu, ne sont jamais parfaits parce qu'on est sur Terre. Mais dans les Andes, on a un environnement qui est aussi parfait qu'il peut être sur Terre, parce que en dehors de la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre, le reste, on est à très haute altitude. J'explore des lacs qui sont entre 4000 et 6000 mètres d'altitude, avec des températures qui oscillent entre moins 20 et moins 40 quelquefois, et où vous avez un très fort taux de rayons ultraviolets, des rayons très courts, un index UV qui est absolument horrible, et aussi en particulier ce qu'on appelle l'ultraviolet B, qui est très proche de la valeur martienne, un environnement hydrothermal, des lacs qui s'évaporent. C'est donc quelque chose en face de nous, la matérialisation de ce qui aurait pu se produire sur Mars il y a 3 milliards et demi d'années, la vision d'un changement climatique extrêmement rapide, et de savoir donc quel type de vie peut résister, quelles sont ses signatures. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on se rend dans ces environnements, d'un seul coup, on a la vision de ce qui existe là, la vie, leur environnement. On apprend à reconnaître les signatures géologiques, les signatures biologiques et aussi à comment les explorer. Quel type d'instrument il faut pour voir ces signatures? Quelle résolution? On fait aussi des simulations de mission, qui sont des vraies simulations de mission. Ce sont des situations réelles, c'est-à-dire que quelquefois, on envoie des rovers dans le désert d'Atacama ou dans l'Altiplano, et nous, on est quelque part en Californie, devant nos écrans, et on commande ces rovers de la même manière qu'on aurait commandé Spirit ou Opportunité, ou Curiosité et Persévérance, ou Zurong sur Mars.
Alors, vous avez ce goût de l'extrême, Nathalie Cabrol, puisque vous parlez de ces expériences dans les Andes, le désert d'Atacama aussi, le lac d'un volcan, l'Icancabur, c'est comme ça que l'on prononce, donc à 6000 mètres d'altitude, à la frontière entre la Bolivie et le Chili. Donc cet intérêt-là, et puis la plongée en apnée, en conditions extrêmes. Vous en avez fait l'expérience entre 2002 et 2004. Et je me suis dit, est-ce que vous aviez à ce moment-là en tête une personnalité qui a nourri votre amour pour l'océan?
J'ai été personnellement attiré par la mer en tant que carrière dès ma jeunesse. Mais c'est ce qui m'a fait rentrer à l'école navale. Mais sans en soupçonner une seconde que je pourrais être intéressé par la plongée. J'étais un bon nageur universitaire, et c'est en 1936, lorsqu'avec mon camarade Taïez, nous avons mis les premières petites lunettes sous-marines. Dès que j'ai mis ces lunettes et que j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai compris, et j'ai eu un choc, si vous voulez. Il arrive dans l'existence qu'on ait un ou deux chocs, soit pour tomber amoureux, soit pour décider d'une vocation. Eh bien, là, ça a été pour la vocation. J'ai très bien compris, en sortant de l'eau ce jour-là, que désormais, toute mon activité disponible serait tournée vers l'exploration sous-marine. Je n'ai pas eu une seconde d'hésitation.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Extrait de l'émission La parole est à la nuit, diffusée sur la radiodiffusion française le 3 mars 1956. Cette voix, c'était celle du...
Commandant Cousteau, bien évidemment. J'ai la chance de faire partie de cette génération qui a grandi avec des géants comme Jacques Cousteau et Carl Sagan. Donc, c'est pas tellement étonnant que je cherche la vie dans l'univers en plongeant dans des lacs de haute altitude.
On peut le dire.
Bien que je partage évidemment sa passion pour l'océan.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pour justement mener ces plongées en apnée dans des conditions extrêmes, vous avez subi des heures d'entraînement avec la NASA et notamment avec Dominique Sumian, qui a été ancien chef de plongée de Cousteau. Donc là, on peut se dire, c'est quand même assez formidable, j'imagine, pour vous. Parce que gamine, vous aviez écrit à Cousteau.
Oui, je lui avais écrit. Contrairement à Sagan, il n'a pas répondu. Mais faut dire que les conditions étaient un peu particulières. Quand je lui ai écrit, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que j'étais tellement mal dans ma peau. En fait, j'avais dans l'idée de quitter l'école et de partir sur le bateau. Je lui demandais s'il voulait bien de moi sur la Calypso. On doute de rien quand on a 14 ans. Mais et c'est à peu près dans la même période où j'ai écrit au CNES pour leur demander si je pouvais devenir astronaute. Et là, je crois bien que c'est Patrick Baudry qui m'avait répondu en me disant, c'est très bien, rappelez-nous dans quelques années quand vous aurez fini l'école. Il était beaucoup plus gentil que ça. Mais Carl Sagan, lui, m'a répondu et je l'ai rencontré. Mais Dominique Sumian, oui. Je passais mes week-ends à regarder d'un côté Le Monde du Silence et bien évidemment la série Cosmos et ces passions que j'avais en moi. Et d'un seul coup, par le biais, 29 ans plus tard, si on était astronome, on dirait une révolution de Saturne plus tard. D'un seul coup, parce que je connais une personne, parce que je reçois un prix à New York, on commence à parler et elle me dit « Ben écoute, je vais parler à quelqu'un, elle m'a pas dit à qui c'était. » Et moi je suis rentrée et deux semaines plus tard, je reçois un email qui me parle, j'avais cette idée parce que je faisais de la plongée en apnée à ce moment-là dans les Andes. Et en fait, la plongée à 6000 mètres en apnée, c'est pas plus compliqué que, je dirais, à plus basse altitude, du moment que vous êtes bien acclimaté. Et en fait, il se passe des tas de choses intéressantes d'un point de vue physiologique qui ont intéressé l'université de Stanford qui nous a accompagnés. On a développé des moniteurs de surveillance pour des tas d'autres choses. Mais donc, je me suis véritablement rendu compte que ce n'est pas une bonne idée de sortir les poumons vides d'air à 6000 mètres d'altitude. Ce n'est pas comme à la surface où vous pouvez vous remplir les poumons rapidement. J'en ai fait l'expérience une ou deux fois. Et là, j'ai compris que si je voulais véritablement prendre mon temps, il faudrait qu'on ait une plongée en bouteille. Alors, j'ai une petite aversion des cylindres pressurisés. Ce n'est pas pour ça que je fais de l'apnée, mais en outre, ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'étais pas certifiée avant l'âge de 42 ans. mais je me suis certifiée pour pouvoir faire ça. Et alors, la Navy américaine et la Marine française se sont penchées sur la plongée à 6000 mètres avec des bouteilles et d'un commun accord ont décidé que l'air conventionnel, c'était pas une bonne idée à cette altitude-là et nous ont suggéré d'utiliser de l'oxygène et en fait un circuit fermé. Et le directeur des opérations militaires américaines nous a fourni des recycleurs que les commandos de la Navy américaine utilisent. C'était pratique parce que les bouteilles sont toutes petites. Hein. Ce sont des cylindres qui sont tout petits, qui font 30-40 cm de long. Et les sacs eux-mêmes, les recycleurs, sont quelque chose de très léger. Donc c'était parfait pour ce qu'on voulait faire, monter en haute altitude, pas trop de choses à porter. Donc ce email que je reçois, d'un seul coup, je regarde à deux fois et il est signé par Dominique Sumian qui dit qu'il va s'occuper de nous et qu'il va nous aider à préparer cette plongée. De la même manière que quelques années plus tôt, la NASA avait demandé à Chris Hackett de nous aider à nous acclimater, à faire ce programme d'acclimatation pour monter en altitude. Et c'est la première personne, je crois, qui a monté l'Everest 7 fois sans utiliser d'oxygène. Donc, on avance, on veut faire des choses, mais encore une fois...
Des rencontres
et des convergences. Et moi, évidemment, travailler avec Dominique, ça a été absolument un rêve. Il nous a emmenés aux îles Catalina pour nous certifier, justement, avec le directeur des opérations militaires. Et là, il s'est produit quelque chose. Si on a un petit moment, je peux vous raconter une histoire très courte qui est absolument savoureuse. On arrive à Catalina pour se certifier. Et la certification, ça passe par... plus de plongée, on apprend à faire de la plongée en groupe. En fait, on est attachés l'un à l'autre, on est en paire. Et Dominique réalise très rapidement, lui il nous surveille, il est avec des bouteilles conventionnelles, il fait la montée et la descente, et il réalise très rapidement que j'ai beaucoup trop d'équipement sur moi, c'est-à-dire que j'ai une combinaison complète, et l'eau est chaude dans cette région-là. Et il pense qu'avec tout ce qu'on fait, je vais avoir trop chaud. Donc, il m'aide en fait à défaire ma combinaison, des parties de ma combinaison, et ce faisant, il est obligé de faire des montées et des descentes pour poser le matériel sur le bateau. Et quand on ressort à la fin de la certification, il y a un groupe de scouts qui est sur la falaise en face qui se moque un petit peu de lui et en clair ce qu'ils lui disent. Et ils lui disent « Et alors, tu te prends pour Cousteau ?» Des Américains, des scouts américains. On a tous éclaté de rire et Dominique fait
« Ah !» Oui, pas faux. On est dans cette année océan, hein, 2025, et oui. On voit combien l'océan subit le réchauffement climatique. Et on sent aussi dans les témoignages que vous nous laissez, Nathalie Cabrol, que la mer vous inspire, vous avez des lieux de prédilection où vous regardez l'océan, vous vous ressourcez, cette source peut-être d'imagination, d'intuition, de vision. Dites-nous peut-être quels sont les lieux qui sont de prédilection pour vous, et donc cette conscience aussi que cet océan peut nous sauver si on le respecte et qu'on arrête de le malmener.
Bon, évidemment, j'ai une relation tout à fait particulière à l'eau depuis que je suis née, et ça, c'est pas quelque chose que je peux expliquer. Mais il y a des endroits, particulièrement sur la côte californienne, et un endroit qui s'appelle pour moi le 17 Mile Drive, qui est très très beau, et qui est tout près de Carmel. Si les gens connaissent Carmel, c'est à cause de Clint Eastwood, qui a été le maire pendant quelque temps de Carmel. Mais il y a cet endroit merveilleux sur la côte, et là, j'y vais souvent. C'est extrêmement paisible, extrêmement beau. Ça ne veut pas dire que c'est calme, au contraire. L'océan, quelquefois, on voit des vagues spectaculaires dans le Pacifique, évidemment. Mais pour moi, l'océan, vraiment, ça cristallise cette question que j'ai toujours à propos de qu'est-ce que la vie ? Quelle est notre position dans l'univers, etc. Parce que le questionnement est le même. Quand vous regardez l'océan, et c'est une des choses que j'ai dites assez souvent, j'ai dit, on est véritablement comme cette goutte d'eau qui veut essayer de comprendre l'océan. Et on pense qu'on est séparé de l'océan. Mais en fait, la goutte, elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est simplement, elle peut changer de forme, elle peut changer de taille. Elle est simplement une expression de l'océan à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'elle en est séparée. Et c'est aussi la difficulté pour nous. Parce que la conscience que nous avons nous fait croire qu'on est séparés. Mais cette conscience, c'est simplement une réflexion de quelque chose de beaucoup plus gros. Et la goutte en elle-même ne peut survivre que momentanément en dehors de l'océan. Donc c'est très facile pour moi d'aller m'asseoir au bord de l'océan pendant un moment, et comme tous les chercheurs, on fait des expériences de pensée. Et l'océan est tout à fait propice à cette chose-là, parce que c'est la chose la plus proche. En fait, les parallèles, ils sont étonnants. On connaît aussi peu l'océan qu'on connaît l'univers. En fait, parfois on peut dire on connaît mieux la Lune et Mars qu'on connaît l'océan sur Terre, parce qu'il y a... Aujourd'hui, même si on l'explore davantage, je ne sais plus si les proportions sont exactes, mais on peut dire au moins moins qu'il y a 90% de l'océan terrestre qui est inconnu. On continue de découvrir des choses, c'est à peu près la proportion de l'espace autour de nous. Et on utilise exactement les mêmes technologies pour les explorer.
Et aujourd'hui, vous prenez la plume pour nous parler de cette planète Terre, de ses richesses en matière de vivant et de l'anthropocène. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela ?
C'est tout à fait naturel et c'est quelque chose, encore une fois, j'ai eu cette discussion peut-être un million de fois depuis que je suis arrivée à Paris et en province avec les gens qui me disent « mais vous êtes astrobiologiste, pourquoi d'un seul coup vous vous intéressez à la Terre ?» Et je leur dis « mais qu'est-ce que c'est que la Terre ?»
C'est une planète.
C'est une planète. Et lorsque vous entendez ça, vous comprenez à quel point la séparation a déjà eu lieu. Les gens ne pensent plus au monde sur lequel ils vivent en tant que planète. Aujourd'hui, la référence que nous avons, c'est l'environnement dans lequel on vit, mais l'environnement technologique dans lequel on vit. Celui dans lequel on est investi en permanence, la relation qu'on a avec notre planète, elle est infime dans notre vie, si on y pense bien. On passe nos journées, pour la plupart, j'ai cette chance en fait d'être un petit peu déconnectée de ça, désormais en Californie.
La Californie qui a souffert ces derniers temps avec
les mégafeux. Elle souffre de toute façon, on parle du Sud, mais il y a 4 ans c'était chez nous au Nord, hein, c'était pareil. Mmh. Et donc, le matin, pour la plupart du gens, c'est se lever, se dépêcher, prendre la voiture, être dans les embouteillages, ou prendre le métro, et donc dans ses sous-sols. Et puis on passe sa journée au travail, on est connectés les uns aux autres avec cette technologie, on repart le soir et on est souvent trop fatigué pour faire autre chose que de regarder la télé et d'aller se coucher. J'ai bien connu ça pendant 30 ans et j'ai eu aussi ce refus. Et une grande chance pour moi, je suis arrivée dans un environnement où je suis au milieu des arbres, où je suis, même si je vis avec la technologie. Et c'est pas un rejet de la technologie, il n'y a aucun moment dans mon livre je rejette la technologie.
Oui, parce qu'elle vous a permis de mener toutes vos recherches aussi incroyables.
Absolument,
sur
et cette le progrès que l'on fait. Oui. Le progrès que l'on fait dans la société, ce serait quand même difficile de cracher dans la soupe. Oui. Les progrès de la science, de la médecine, la technologie a un grand pouvoir, j'ai dit toujours. Le problème, c'est pas la tablette ou le téléphone que vous avez dans la main qui vous permet d'être en contact avec des gens que vous ne rencontrerez jamais. Ça vous permet de connaître des cultures, de connaître d'autres choses. Peut-être si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer ou pas le temps de vous déplacer, d'aller à l'autre bout du monde et de rencontrer ces gens personnellement, vous avez quand même une connaissance de ce qui se passe ailleurs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on décide de changer son téléphone tous les 6 mois parce que d'un seul coup, il y a un nouveau gadget. C'est pas votre décision, en fait. Et c'est ça qui est le pire, que les gens réalisent pas. Ça n'est pas votre décision. C'est le martelage permanent qui vous dit que vous êtes en dehors de la société si vous possédez pas les derniers gadgets, etc. Donc, c'est effectivement l'usage, la surconsommation qui est le problème. La surpopulation aussi est un problème parce qu'il n'y a pas de raison que l'ensemble des humains sur notre planète, ce qui est totalement faux, en fait, parce que c'est simplement 25% de la population humaine aujourd'hui qui utilise 90% des ressources naturelles. Mais dans l'absolu, il n'y aurait pas de raison, si c'était un partage égalitaire, que l'ensemble des êtres humains à la surface de cette planète profite des bénéfices de la science et de la technologie. Ça n'est pas le cas, et c'est là aussi où il y a un énorme problème. Et ce que je veux absolument dire, c'est que ce livre n'est pas un livre politique, c'est pas un livre qui parle d'économie ou de politique, parce que fondamentalement, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a une espèce de rejet de la politique et des discours économiques parce que plus personne ne croit. On a été trop trompé, on est trop manipulé. Ce que je veux donner aux gens, ce sont les faits. Simplement, comme une chercheuse, moi ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Et de tirer des hypothèses, il y a quelques expériences de pensée, il y a quelques hypothèses dans cet ouvrage, et je les pousse jusqu'au bout. Mais le message le plus important que je dis aux gens, je ne vous demande même pas de me croire, parce qu'en tant que scientifique, croire, c'est pas ça. Non, je leur demande d'aller chercher les faits, les données, et ils sont accessibles. Ne lisez pas les grands titres de journaux, n'écoutez pas simplement ce qu'on vous dit, allez vous faire une opinion vous-même. Aujourd'hui, c'est très important parce que non seulement vous verrez l'ampleur de la situation actuelle, on est dans une crise, mais vous verrez
double
aussi
crise, hein, crise climatique, crise de la biodiversité, enfin tout est mêlé quoi.
Et ce sont des crises de tous les systèmes humains qui se répercutent aujourd'hui sur l'environnement. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Et ce qui est ironique un petit peu, c'est que la science et la technologie peuvent nous aider aujourd'hui. Mais il y a aussi la nature qui nous vient en aide. Si on aide la nature, elle va nous aider. Et il y a des initiatives des Nations Unies qui existent et qui sont là, et qui, si dans 10 ans, elles arrivent à se mettre bien en place, peuvent nous aider et régler un tiers des problèmes que l'on a avec le carbone, simplement. Et ça, c'est fondamental. Et j'aimerais que les gens sachent qu'il y a quand même une petite lueur au bout du tunnel et que leur participation à cet effort, on ne leur demande pas de faire les gros efforts écologiques, ça c'est des nouveaux des gouvernements, du niveau des gouvernements, mais toutes les petites choses qu'ils vont faire chaque jour, ça a une importance capitale.
Nous allons en parler de ces espoirs et de ce que chacun et chacune peut faire, mais vous parlez aussi des politiques et on voit bien que les gouvernements ont leur rôle. Il y a cette montée des populismes, le climato-scepticisme, le retour de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que tout cela vous inquiète et notamment ce retour aux États-Unis?
Il y a différentes manières de voir les choses. Je pense que c'est tout à fait regrettable ce qui se passe à l'heure actuelle, bien évidemment. Mais ça a aussi une vertu quelque part. Et cette vertu, c'est de nous mettre en face de nous, de matérialiser en face de nous les choses que l'on doit rejeter. Parce que tant qu'elles ne sont pas en face de nous et qu'on n'est pas obligé de les regarder, on évite et on tourne la tête de l'autre côté en disant « ça n'existe pas ». Et ça, c'est une grande partie du déni, parce que la crise est tellement forte et tellement douloureuse, en fait, que quelque part, la plupart des gens, je ne pense pas, se disent que ça n'existe pas véritablement, mais ne veulent pas prendre responsabilité. Et ça, c'est la grande différence. Il y a des tas de gens qui vont dire « je crois pas au changement climatique parce qu'on me dit que c'est de ma faute, etc. » C'est pas le sentiment de faute, encore une fois. C'est de dire qu'on est une civilisation adolescente qui fait des erreurs et qui doit apprendre de ses erreurs. Mais la responsabilisation, c'est différent de la culpabilité. On est coupable si on refuse de regarder. On est responsable si on prend la situation en main et qu'on essaye de trouver des solutions. Et je pense que ça, c'est la métamorphose dont je parle. C'est le papillon que vous voyez sur la couverture. Parce que le papillon, il est là. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui réalisent que, oui, on est responsable, mais ça fait partie du changement de l'enfance à l'âge adulte. C'est pas quelque chose dont on est coupable, c'est simplement une évolution. Mais aujourd'hui, la planète répond. Elle nous met en face de nos responsabilités de la même manière qu'on est mis en face aujourd'hui de pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires, qui sont des pouvoirs qui nous déplaisent, des relents de choses qu'on a vues et contre lesquelles on s'est battu il y a longtemps, qu'on pensait disparus. Mais ça nous met en face, enfin, de nos responsabilités parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si on veut de l'autoritarisme à la surface de la planète, d'accord, on tourne la tête et on laisse l'autoritarisme prendre place. Si on veut que l'humanité disparaisse en tant qu'espèce, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'environnement qui est favorable à l'humanité et à cette civilisation qui est merveilleuse.
Oui, parce que vous nous expliquez que la vie sur Terre s'éteindra de toute façon dans 3 milliards d'années, à peu près.
Dans un milliard d'années,
oui,
même avant.
Alors, de façon naturelle, mais précipitée.
On peut accélérer les choses.
Voilà, précipitée par le comportement de l'humanité.
Alors, ce que sera l'humanité dans un milliard d'années, ça, je ne peux pas vous dire, parce que vous voyez déjà la différence des humains aujourd'hui, il y a 10 000 ans ou 100 000 ans. On ne ressemblera absolument plus, si on est toujours là, de toute façon, à ce qu'on en est
aujourd'hui.
Mais on disparaîtra de toute façon. Et c'est aussi pour ça, la couverture, comme je le disais, il n'y a pas véritablement de masse continentale sur la photo que j'ai choisie, parce que c'est une image de la Terre sans présence humaine. Mais la Terre, elle est toujours là.
Mais nous sommes en train de précipiter en fait cette disparition du vivant, et c'est ce que vous voulez nous dire, hein, Nathalie Cabrol, dans votre livre. Je vous propose, avant d'engager justement dans une deuxième partie, ce qu'il faut faire plus concrètement si nous voulons éviter l'effondrement global et continuer à parler de cette vie essentielle. Je vous propose de nous faire écouter votre choix musical. C'est la musique d'un film, je crois.
Imitation Game, ouais.
Et parce que vous aimez cette musique?
J'aime simplement la musique. Je dois avouer, je n'ai pas vu le film, mais j'adore véritablement cette musique parce qu'elle éveille beaucoup de choses. Elle est belle en soi, mais elle a un petit peu de nostalgie. Et de se dire, on est au seuil de quelque chose de merveilleux, mais il y a aussi la possibilité que ça n'arrive jamais. Quand je l'écoute, c'est toujours cette dualité. Et je pense qu'on est exactement à cette époque-là. Et il n'y a rien de perdu. Il est important de mettre les gens devant leurs responsabilités, c'est-à-dire que de dire aux gens la situation telle qu'elle est, c'est important. Il n'est pas question d'enrober les choses avec des rubans, etc. La situation, elle est sérieuse. Mais il y a quand même de l'espoir derrière tout ça. Finalement, avoir conscience et prendre conscience qu'on est capable de vivre en équilibre avec notre planète et qu'on fait partie de quelque chose de merveilleux qui transcende toutes les espèces qui ont vécu avant nous et qui probablement vivront après nous.
Thank you.
continuons notre émission de Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, avec vous Nathalie Cabrol, astrobiologiste, et nous questionnons la place des humains sur Terre, la préservation de sa biosphère au nom de la Terre et de notre devenir, car comme vous l'avez écrit, nous sommes héritiers et gardiens d'un monde vivant où l'environnement et la vie sont intimement liés, avec cette responsabilité de sauver ce qui peut l'être encore.
Cette réserve ne sera pas un lieu où on ira à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'au contraire des autres endroits de la forêt, elle ne sera visitée par les écoles qu'au moment où l'on voudra apprendre à mieux connaître les arbres et également à protéger les oiseaux.
Votre association SOS Nature est en train de travailler sur un projet de réserve dans le bois de Saint-Cucufa. Qu'est-ce que ça va apporter tout ça ?
Ben, c'est que les hommes, quand ils viendront au bois de Saint-Cucufa, devront respecter la nature. Et en plus de ça, ils ne pourront pas aller partout dans le bois, car il y aura un endroit qui sera réservé pour les animaux et les plantes, où ils pourront vivre et se développer en toute tranquillité, sans être dérangés.
C'est-à-dire que vers Paris, il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Ben, ça permettra aux animaux de mieux se reproduire.
On pourra mieux observer les animaux, les plantes et les fleurs.
Mais ici, on peut les observer, là, dans cette forêt déjà ?
On peut les observer, mais seulement ils sont moins protégés, ils sont moins libres. Les hommes les effraient surtout, ils marchent sur des arbrisseaux, des petits arbrisseaux qui poussent. Là, dans cette réserve, ça sera protégé. La nature sera livrée à elle-même, quoi.
Nathalie Cabrol, c'était un extrait d'une émission Club Enfant diffusée sur TF1 le 8 septembre 1975, SOS Nature de Saint-Cucufa dans le magazine écologique des jeunes. C'est une forêt que vous connaissez bien puisque vous avez vécu dans les Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison et ce bois, son étang ont éveillé en vous un rapport intense avec le vivant déjà dès l'enfance.
Oh absolument, mes parents vivaient dans un tout petit appartement à La Celle-Saint-Cloud et donc c'était naturel pour moi et ma mère surtout parce qu'à ce moment-là, mon père donc travaillait la nuit. Je passais souvent mes journées quand j'étais pas à l'école avec maman quand elle avait du temps et on allait directement dans le bois de Saint-Cucufa. Et je me souviens des saisons qui passaient. Je me souviens encore du bruit des feuilles quand on allait chercher des châtaignes, par exemple, et l'étang. Mais l'étang de Saint-Cucufa, hein, et de tous les têtards que j'ai pu ramener à la maison, Dieu sait si j'en ai ramené. Comme je l'ai écrit dans un autre livre, il y avait une règle à la maison, c'est que, bon, maman était d'accord d'avoir l'aquarium à la maison et d'avoir les têtards qui grandissaient, mais une fois qu'ils étaient transformés en grenouilles, ils retournaient dans l'étang de Saint-Cucufa. Mais d'entendre ça, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur, parce que, pour moi, ça me ramène à mon enfance, c'est un endroit que je connais très très bien, et de savoir qu'il y a une réserve naturelle là, c'est vraiment quelque chose qui est formidable.
Mais on voit bien qu'il faut métamorphoser l'humanité, puisqu'on parle déjà à cette époque de la nécessité de préserver et de réserve. L'humanité est la seule espèce à avoir investi tous les territoires, hein, tous les biomes, les écosystèmes, les habitats, donc cette civilisation ultra-technologique. Et donc il faut prendre conscience plus que jamais de cela et se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est-à-dire comment on se transforme ? Est-ce qu'on peut encore se transformer ? C'est quoi le déclencheur selon vous, Nathalie Cabrol, qui pourrait faire changer les choses ?
Aller au-delà de nos contradictions. Et une des plus grandes contradictions de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, je dirais, ou en tout cas une certaine faction de l'économie, tend à vouloir globaliser l'humanité. C'est les médias sociaux, et vous savez, la somme d'argent qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Donc on veut globaliser la connexion entre les humains, mais on refuse de globaliser l'utilisation des ressources entre tous les humains. C'est une espèce de j'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est pratiquement un dédoublement de personnalité de l'humanité à l'heure actuelle. De cette globalisation sans être la globalisation, et en plus un mélange absolument extraordinaire dans la tête des gens, où quand ça les arrange de dire que non, on peut pas globaliser parce que on veut pas perdre notre identité, comme si on perdait notre identité. C'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple de l'équipe de foot de France, où là, alors, on pouvait avoir n'importe quelle couleur qu'on voulait, la seule couleur qui comptait, c'est la couleur bleue du maillot, et ils étaient tous français. Quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit... La seule chose que je demanderais, moi, aux gens, c'est de considérer de porter le maillot, qui est bleu aussi, de la terre, et de considérer nos races, nos langages, nos cultures, nos ethnicités, comme simplement une représentation de la biodiversité de cette planète, parce que c'est exactement ce que c'est. Le langage que l'on parle, la couleur de notre peau, etc., c'est simplement le résultat de l'environnement, de l'histoire, et des changements du climat. Et aujourd'hui, il y a toujours cet aspect animal de l'humanité, qui est celui du territoire, et la poussée de l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus grand, qui est cette compréhension de notre place dans l'univers et sur Terre, parce que finalement, c'est parce qu'on a commencé à regarder vers l'univers qu'on s'est retourné enfin vers la Terre et qu'on s'est rendu compte que depuis là-haut, il n'y a pas de frontières. Les nuages, ils s'en fichent, les nuages. Ils passent autour de l'atmosphère, ils font le tour de la planète. Il n'y a personne qui leur demande un passeport, ils ne sauraient même pas ce que c'est. Et ça, c'est l'effet de perspective que tous les astronautes ont. C'est la vision de Carl Sagan dans les années 86 du petit point bleu pâle. 90. En 90, il a cette vision merveilleuse avec l'image de Voyager qu'il a demandé. C'est lui qui demande qu'on retourne les caméras de Voyager pour regarder derrière. Et il a encore une autre vision, mais qui là entraîne à autre chose. C'est-à-dire qu'il a fait aussi ce qu'on appelle la photo de famille du système solaire. Et ça, c'est la vision aujourd'hui des exoplanètes. Plus on réalise, plus on comprend qu'on n'est pas le centre. Copernic nous a montré qu'on n'était pas le centre du système solaire, qu'on tournait autour du Soleil. Et aujourd'hui, les exoplanètes nous montrent qu'on n'est pas unique. Mais les humains, c'est la même chose. Ils ne sont pas uniques dans le système planétaire parce que c'est un système. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, prisonniers de ce technosystème qu'on a développé, qui, entre parenthèses, est une réplique absolument symétrique de l'écosystème naturel. Et c'est bien normal parce qu'on en sort et qu'il y a des schémas qui se répètent. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est tellement enfermé dans ce technosystème, c'est que pour survivre, le technosystème, il a besoin de prendre les ressources dans l'écosystème naturel.
Donc redevenir humain, mais redevenir conscient du fait que nous sommes ce vivant parmi le vivant et que nous faisons partie de la nature et nous ne sommes pas juste nous et la nature, mais nous dans la nature. Je cite juste cette phrase de Carl Sagan dont vous mentionniez justement le livre et ses prises de conscience dans les années 90. Et c'est dans ce livre paru en 1994 où il écrit « Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie de l'homme que l'image lointaine de notre petit monde. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de nous comporter mieux les uns envers les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule demeure que nous ayons jamais connue. » C'est vrai que aujourd'hui, on a souvent le sentiment de vivre presque ce qui a été pointé du doigt dans un film de fiction, cette comédie dramatique sur le déni cosmique qui n'est autre que le film Don't Look Up.
J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
Nous avons découvert une très grosse comète.
Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Qu'on patiente et qu'on avise ?
On patiente.
Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent.
On fait quoi ? Il faut qu'on sorte l'information.
On l'a fait fuiter.
Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace.
Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible?
Il y a 100% de chance qu'on crève tous! Je suis désolée.
Kate! La voilà! Une comète géante se dirige droit vers la Terre! Vous la voyez?
Nathalie Cabrol, effrayant, hein, on peut dire. Et en même temps, c'est une comédie qui a cette vertu d'être une parodie de la crise climatique en cours, hein, du déni de la catastrophe en cours, où les personnages d'ailleurs comme Donald Trump, Elon Musk sont caricaturés, désignés dans le film comme ayant une part de responsabilité. On le voit bien.
Je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, l'humanité vit dans une parodie d'elle-même. Et on a la matérialisation en face de nous, des choses qu'on doit absolument combattre. La raison pour laquelle elles sont là, c'est parce qu'on n'a pas voulu les regarder en face et maintenant elles nous sont mises en face, on ne peut plus les éviter. Donc la vertu de cette situation-là, c'est effectivement que c'est en face de nous, que c'est bien identifié et qu'on n'a plus le choix, si on veut pouvoir avancer, de repousser et de repositionner. La technologie, c'est pas mal. La science, ça a du bien fondé. Et c'est pour cette raison qu'on est capable de se regarder nous-mêmes depuis l'espace aujourd'hui. Et qu'on est capable de faire un petit peu cette auto-analyse, parce que c'est exactement ça. Mais ce qu'il faut simplement recentrer, c'est la manière dont on utilise tout ça. Et ce qui est aujourd'hui au pouvoir sur Terre, et pas seulement aux États-Unis, mais c'est l'excès humain qui nous est montré. On peut voir ça comme une catastrophe, et ça l'est certainement, je ne veux pas diminuer la situation actuelle, mais en même temps c'est une chance, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus éviter que de le voir.
Des moyens sont donnés aujourd'hui à la recherche spatiale, hein, aux explorations et aux missions. Aujourd'hui on voit la difficulté de mobiliser, lors des différentes COP, les pays pour donner de l'argent nécessaire pour justement lutter contre le réchauffement climatique et sauver le vivant. Qu'est-ce que ça fait émerger en vous ?
Je dirais qu'à la limite, ce que ça fait émerger a peu d'importance. Ce qui est important, c'est de réagir et d'agir. Enfin, d'agir et de réagir, si vous voulez. Il y a aussi autre chose. Et tout à l'heure, on parlait de globalisation. Il faut qu'on réalise quelque chose. Il y a environ 150 pays à la surface de la Terre. Si vous en avez 149 qui font tout ce qu'il faut pour aider la situation, ça aidera probablement, et il faut le faire, parce que dans ces 149 pays, il y a des grandes nations, hein, il y a les 25% aussi. Mais il suffirait qu'il y ait toujours une des grandes nations qui refuse de faire ce qu'il faut pour que ça complique les choses. On a des seuils qu'on ne peut pas dépasser.
Et là, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris.
Oui, bien évidemment, mais bon, ça, comme vous le savez, ils y étaient rentrés à nouveau. Oui. Simplement, cette espèce de danse qu'il y a à l'heure actuelle et de gesticulation, c'est pas très utile, c'est pas très positif. Ça fait perdre du temps quand on n'en a plus tellement. Ma position, elle est ce qu'elle est. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, elle a peu d'importance. Ce qui est plus important, c'est les actions. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que même s'ils ont le sentiment que c'est peu de choses, je dis toujours, c'est le seul moment où être 8 milliards à la surface de la planète, c'est quelque chose d'utile. C'est que la plus petite chose que vous fassiez, ça va avoir de l'importance. Et je reviens toujours à l'exemple des petites algues bleues et vertes. Il y a 2,5 milliards d'années sur Terre. Et si vous prenez la taille d'une petite algue bleue, ça dépend des espèces, hein, mais c'est entre 1 micron et 60 microns. C'est vraiment minuscule, minuscule, il faut des microscopes pour les voir. Et bien, si elles avaient pu parler à cette époque-là, elles se seraient dit, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je fais 1 micron sur une planète qui fait 12 700 et quelques kilomètres de diamètre, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, une par une, individuellement et collectivement, elles ont changé l'atmosphère de notre planète. Elles ont injecté l'oxygène que vous respirez aujourd'hui encore 2 milliards d'années plus tard. Elles sont à l'origine de la biodiversité de notre planète. Grâce à l'oxygène, on a pu développer des espèces plus complexes. La vie qui existe aujourd'hui part de cette métamorphose de l'atmosphère primitive terrestre. Elles ont pris le carbone de l'atmosphère, l'ont transformée en oxygène, elles sont devenues ce qu'on appelle les producteurs primaires et ont entraîné un écosystème qu'on connaît bien aujourd'hui avec des herbivores, des carnivores, des omnivores, avec les humains tout en haut. C'est pour ça que je parle du château de cartes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces petites algues bleues et vertes, elles ont non seulement transformé complètement une planète, elles lui ont donné sa vie et sa biodiversité, elles ont aussi transformé la signature de la Terre dans l'espace. S'il y a un extraterrestre qui nous regarde de plus loin, il a pu se dire, s'il a la possibilité de vivre aussi longtemps que ça, de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète ? Pourquoi d'un seul coup, cette signature, elle a changé ? Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a le sentiment d'être un peu comme ces petites algues bleues et vertes, pour qui c'est impossible de faire quoi que ce soit. Il suffit de changer très très peu de choses dans nos habitudes quotidiennes, sans même déranger notre quotidien.
En tout cas, dans votre livre, Nathalie Cabrol, vous n'avez pas l'ambition de juger, hein, vous le dites, de moraliser ou d'être éveilleur de conscience, même si, au final, c'est ce qui ressort, hein, entre les lignes ou dans les lignes, puisque vous avez la parole d'une scientifique, mais une parole crue, en tout cas directe, dire. Je vous lis ce passage où vous parlez de l'humanité devenue une anomalie, voire un cancer. Nous sommes désormais l'équivalent d'un organisme dont les cellules ne communiqueraient plus de façon équilibrée les unes avec les autres, dans notre cas avec les écosystèmes naturels. Au niveau planétaire, nous sommes donc devenus une anomalie qui se développe rapidement et de manière incontrôlée, une anomalie qui draine la force vitale du reste de la biosphère. En termes médicaux, nous sommes devenus un cancer. En même temps, vous nous saisissez, hein, bien sûr, avec ces mots-là, et puis vous nous donnez aussi de l'espoir, peut-être en alerteur à votre manière, comme le fut le physicien canadien Gilbert Place en 1953, vous le mentionnez, il avait prédit le changement climatique. On peut penser à Rachel Carson avec son printemps silencieux en 1962, cet appel pour le vivant. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, aujourd'hui Nathalie Cabrol, d'être une scientifique qui tente de rappeler combien les données, la science, la connaissance peuvent métamorphoser l'humanité?
En tant que scientifique, la chose sur laquelle je me fonde toujours, ce sont les faits. Et je ne peux pas avoir de jugement sur une observation. Je peux simplement essayer de comprendre ce que cette observation, elle me dit. Si je ne comprends pas tout de suite, je peux émettre des hypothèses. C'est pour ça que je parle de ces différents cas d'hypothèses en disant « c'est pas du tout la faute des humains, c'est peut-être seulement un petit peu la faute des humains ou c'est complètement la faute des humains, ce changement qu'on voit aujourd'hui ». Ce sont les hypothèses qu'on pousse et qu'on documente. Et aujourd'hui, les résultats sont clairs. quoi que ce soit que n'importe qui dise, c'est en face de nous, on ne peut pas le renier. Quand on le renie, c'est simplement parce qu'il y a des intérêts derrière à le renier. Et donc, pour moi, c'était important, comme je le dis, j'ai écrit ce livre sans jugement, simplement en mettant les faits à plat. Je passe en fait une grande partie du livre à montrer combien notre planète, elle change au cours de son histoire. Elle ne fait que ça. C'est ce qu'elle fait de mieux, la Terre, de changer. Elle passe de climats qui ont été même plus chauds que celui auquel on est confronté à l'heure actuelle, avec un océan qui fait 40 degrés. Bien évidemment, ça résulte en la perte d'environ 90% des espèces marines et continentales. Hein, ouais. Et c'est arrivé plusieurs fois. Mais lorsque c'est arrivé, c'était complètement naturel. Et ça, on a les signatures de ces choses-là. On sait très bien, lorsque c'est la nature qui agit, la nature, on connaît ses signatures dans le carbone, dans les sédiments, on sait exactement comment la reconnaître. Et on sait aussi que l'activité humaine produit des signatures qui n'existent pas dans la nature. Et celles-là, on les retrouve aujourd'hui. On sait que l'atmosphère terrestre est modifiée. Alors, le carbone, il en existe naturellement dans l'atmosphère terrestre, mais elle a une signature particulière qu'on connaît. On appelle ça des isotopes de carbone, pour employer des grands mots. Et les isotopes qui existent dans le cycle géologique et biologique de la Terre, ils ont une signature particulière, celle de l'utilisation des gaz ou des fuels fossiles, par exemple, a une autre signature. Et aujourd'hui, on est en train de transformer la signature de la Terre dans les isotopes. Donc la signature, elle est là. On ne peut pas la renier. Il y a des tas de cas que j'ai utilisés, en particulier les gens qui disent « mais il y a beaucoup de volcans en ce moment qui sont en activité ». Évidemment, quand on regarde un volcan, c'est chaud, hein ? Donc ça doit expliquer le changement climatique. Eh bien, pas du tout. Effectivement, là où je suis d'accord, c'est que les volcans rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Seulement, ils rejettent aussi des débris, des aérosols. Et ce qui se passe quand vous avez une éruption volcanique, la première chose qui va se passer, en fait, c'est que le climat va se refroidir parce que ces débris dans l'espace, ils bloquent les rayons du soleil.
C'est ce qui s'est passé il y a 60 millions d'années.
Et pas seulement il y a 60 millions d'années, mais avec le Pinatubo, il n'y a pas si longtemps, où vous avez des récoltes qui n'ont pas pu aboutir pendant quelques années à cause des hivers qui ont perduré pendant les étés, c'était trop froid pour que les récoltes puissent arriver. Mais aussi les gaz à effet de serre. Eh bien, le Mont Sainte-Hélène, qui est une des plus grosses éruptions qu'on ait eues très récemment, il y a pas tout à fait 50 ans maintenant, c'est pas très loin de là où j'habite. En l'espace de 9 heures, il y a eu des millions de tonnes de CO2 qui ont été propulsées dans l'atmosphère. C'est gigantesque, c'est énorme, à l'échelle humaine, ça paraît complètement énorme. C'est l'équivalent de 2h30 de l'activité humaine par jour. Quand vous commencez à dire les chiffres sans les extraire de leur contexte, il n'y a pas un seul argument qui tient pour dire que c'est la nature qui est responsable.
Merci à vous, Nathalie Cabrol. Cette planète bleue océan, c'est notre héritage planétaire. Nous l'aurons compris avec vous aujourd'hui. Et je rappelle le titre de votre livre édité chez Julliard, Inséparables, les destins croisés de la Terre et de la vie. Les références, bien sûr, comme d'habitude, la bibliographie, les liens vous concernant sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et puis, bien d'autres podcasts sur ces sujets vous y attendent, bien sûr.